Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Bank avec vous à chaque étape.
Priorité Santé, Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous dans Priorité Santé. C'est la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. La polio, cette maladie virale mortelle qui était autrefois la principale cause de paralysie chez les enfants, est sur le point d'être éradiquée. Grâce à la vaccination, le nombre d'enfants atteints de polio a été réduit de 99% depuis 25 ans dans le monde. Mais dans certains pays en guerre ou en tension, comme en Afghanistan, au Pakistan et récemment dans la bande de Gaza, la polio circule à nouveau. Quels sont les autres freins à la vaccination dans le monde et comment vivent au quotidien les 20 millions de personnes atteintes de polio? On en cause bien sûr avec vous qui nous écoutez et nos invités. Bonjour Maël Besseau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la poliomyélite à l'Institut Pasteur, chercheur au sein de l'unité signalisation antivirale et responsable du centre collaborateur de l'OMS pour les entérovirus à l'Institut Pasteur. Éradication totale de la polio d'un point de vue mondial, on va en parler. C'est possible, c'est peut-être possible malgré les conflits.
C'est possible, c'est techniquement possible, on sait faire. En fait, il y a trois types de poliovirus, poliovirus 1, 2 et 3. Il y en a déjà deux qui ont été éradiqués en réalité. Les poliovirus de sérotype 2 et 3 sont déjà éradiqués, donc c'est techniquement possible. Le problème, vous l'avez dit, c'est des problèmes qui n'ont rien à voir avec la virologie. Ce sont des problèmes de difficulté à vacciner les gens et à surveiller à cause des conflits, à cause des déplacements de population aussi.
Voilà, et on en causera aussi également dans une quinzaine de minutes avec le docteur Rich, qui lui est coordinateur régional du programme de l'éradication de la polio de l'UNICEF, notamment en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et puis bien sûr, vous qui nous écoutez, racontez-nous où en est la vaccination chez vous, si vous connaissez des personnes atteintes de polio, sur notre compte WhatsApp au 33 7 61 18 46 41. Bienvenue.
Priorité santé sur RFI.
Pour commencer, Maël Besseau, rappelons que la polio est une maladie très contagieuse, susceptible d'entraîner des paralysies, essentiellement respiratoires. Pourquoi cette infection est particulièrement contagieuse, et notamment chez les enfants de moins de 5 ans ?
Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, c'est un virus qui se multiplie essentiellement dans l'intestin et donc qui va être excrété dans les selles, dans les déjections, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc une personne qui est infectée peut contaminer beaucoup de monde, d'autant que le virus peut se propager par l'eau. Donc vous pouvez être contaminé par une personne que vous ne croiserez jamais, en fait, puisque le virus suit l'eau. La deuxième raison, c'est que la plupart des infections à poliovirus sont inapparentes. On estime que c'est moins d'une personne sur 100 qui, alors qu'elle est infectée par un poliovirus, va développer des symptômes.
Donc c'est compliqué pour surveiller alors.
Exactement.
La circulation, en fait.
Et c'est ça qui complique énormément la surveillance, parce que tous les jours, vous avez des gens qui excrètent des poliovirus, qui prennent l'avion ou qui montent dans un bus et qui peuvent disséminer le virus.
Alors, parler des enfants, il y a une question d'un auditeur, Oumar de Guinée, qui nous dit: est-ce que les adultes peuvent contracter la polio aujourd'hui?
Oui, les adultes peuvent contracter la polio s'ils ne sont pas vaccinés. On pense même que les adultes sont plus sujets à faire des formes paralytiques que les enfants. Mais en réalité, La polio, elle se déclare surtout chez les enfants, précisément parce que c'est un virus qui se diffuse tellement facilement qu'il est rare d'y échapper dans la petite enfance. Mais si vous n'avez jamais croisé de poliovirus dans l'enfance, vous pouvez tout à fait être infecté à l'âge adulte. Et l'exemple consiste toujours, c'est celui du président Roosevelt, le président américain, qui a fait une poliomyélite à l'âge de 20 ans, je crois.
Ah oui, incroyable. Là, vous parliez des différentes souches, les trois, dont deux ont été éradiquées. Il y a différents vaccins, c'est pas lié aux souches.
Non, il y a différents vaccins. Trois souches, ça veut dire tout simplement que... Enfin, trois sérotypes. Un sérotype, ça veut dire que lorsque vous êtes infecté par un virus d'un sérotype, vous êtes immunisé contre tous les virus du sérotype, mais pas contre les virus des autres sérotypes. Donc, dans votre vie, vous aviez trois occasions, j'allais dire, de faire une polio. Les deux types de vaccins, ils ont été développés dans les années 50. Ils sont toujours utilisés aujourd'hui. Il y a le vaccin polio injectable, qui repose sur des virus qui sont inactivés. C'est ce qu'on appelle des virus inactivés, des vaccins inactivés, qui sont administrés par injection. Et le deuxième type de vaccin, c'est le vaccin polio oral, qui lui repose sur l'utilisation de souches virales atténuées. Atténuées, ça veut dire qu'elles vont faire une véritable infection chez la personne vaccinée. Mais en revanche, elles ne peuvent pas induire les symptômes de la polio.
L'intérêt du vaccin oral, c'est d'un point de vue logistique, c'est peut-être plus pratique aussi dans certains cas.
Exactement. Mmh. Alors, il y a deux aspects pour le vaccin polio oral. Les aspects logistiques que vous évoquez, le fait que quand vous faites une injection, il vous faut du personnel médical, il vous faut des conditions d'asepsie, vous devez gérer les seringues qui du coup constituent des déchets souillés. La facilité d'administration, vous pouvez vacciner très rapidement beaucoup d'enfants. Ça, c'est les aspects logistiques. Mais il y a aussi un aspect épidémiologique qui est très important, c'est que le vaccin polio injectable protège contre la maladie, mais très peu contre l'infection. Toutes les personnes qui sont vaccinées avec le vaccin polio injectable peuvent être infectées par un poliovirus. Elles ne vont pas faire la maladie, ce qui est l'objectif premier du vaccin. Par contre, elles vont pouvoir transmettre le virus. Et si vous voulez bloquer la transmission des virus, si vous voulez bloquer les épidémies, le vaccin polio oral est beaucoup plus efficace pour ça. Et c'est pour ça que le vaccin polio oral est toujours utilisé dans les pays où l'hygiène et notamment l'accès à l'eau potable est relativement difficile.
Avec trois doses de vaccin, il faut peut-être le rappeler, des rappels tout au long de la vie, c'est ça ?
Voilà, il y a des rappels. Alors, il y a des pays qui n'utilisent que le vaccin injectable, d'autres que le vaccin oral, d'autres qui ont des calendriers mixtes. Et les vaccins, en fait, les calendriers sont optimisés en fonction du contexte, en fait. Donc, en France, par exemple, et dans beaucoup de pays industrialisés, on n'utilise plus que le vaccin polio injectable, mais avec toujours des rappels, oui.
Alors, je ne sais pas si mes chiffres sont bons, Maël Bessot, il y aurait 20 millions de personnes dans le monde qui vivent avec des séquelles de polio, 50 000 en France. C'est ce qu'on appelle le syndrome post-polio, c'est ça ?
Exactement. Donc la polio, il y a deux choses. Il y a la phase aiguë de la maladie qui se caractérise par la mise en place de paralysies qui peuvent toucher tous les membres et aussi les muscles respiratoires, vous l'avez dit, et dans ce cas-là, les personnes peuvent décéder par asphyxie. Et les paralysies sont irréversibles. Donc les gens vivent avec des séquelles qui sont souvent lourdes. Et puis après la phase aiguë, plusieurs décennies après, on a ce que vous avez décrit comme le syndrome post-polio, qu'on n'explique pas très bien d'ailleurs, avec une réactivation des symptômes, avec des douleurs, avec une perte encore de mobilité que l'on n'explique pas bien en fait.
On n'explique pas ?
Non.
Mais on va en parler avec quelqu'un qui est concerné par le sujet. Nous sommes avec Arlette Bourron. Bonjour Arlette Bourron.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes secrétaire de Polio France. Hein. C'est un réseau d'entraide et d'information. Vous représentez l'association Aquitaine Nord. Alors justement, avant de parler de votre association, parlons de vous. Vous avez 72 ans et vous avez contracté la polio à l'âge de 6 mois. À l'époque en France, la vaccination n'était pas obligatoire à ce moment-là ?
Non, elle n'était pas encore obligatoire. Par contre, elle pouvait se faire. Ma sœur aînée avait été vaccinée, mais elle avait presque 3 ans à ma naissance.
Oui, c'est ça. Alors vous avez été diagnostiquée assez rapidement, hein ?
Oui, en fait, lors d'un change, mes jambes sont tombées. Ma mère a tout de suite pensé que j'avais la poliomyélite. Ça courait pas mal dans le secteur. Et tout de suite, j'ai été hospitalisée. Et par ponction lombaire, le diagnostic a été établi avec une atteinte dite sévère, puisque potentiellement, je risquais d'être placée en poumon d'acier, qui m'avait été réservé dans la ville la plus proche, qui était alors Bordeaux.
Oui, oui. Et donc, il y a eu pas mal d'interventions chirurgicales, hein, c'est ça, Arlette Bourron ?
Voilà. Oui. Hein, donc, autour de l'âge de entre 15 et 18 ans, effectivement, après toute une période de rééducation, j'ai eu pas mal d'interventions, de transpositions tendineuses, d'ostéotomie et autres allongements du tendon d'Achille, qui m'a donné une phase quand même de stabilité fonctionnelle assez grande jusqu'à l'âge de 50 ans.
Alors voilà, c'est ce que vous dites. Vous dites que ça s'est aggravé à partir de 50 ans. C'est-à-dire quoi ? Quels sont les autres symptômes que vous avez éprouvés, ressentis ?
Alors, assez brutalement, quand je me suis mis à chuter, avoir un périmètre de marche beaucoup moins grand, avoir des difficultés à monter des escaliers sans appui, et ces symptômes se sont accrus depuis, donc dans les 20 dernières années, malgré des prises en charge rééducatives, j'ai fait appel à des aides techniques, la canne, quelquefois le déambulateur sur certaines périodes, ou le fauteuil roulant pour des visites d'exposition, autre chose comme ça. Donc en fait, c'est effectivement à la fois, dans ce que j'en ai compris, un vieillissement des bons résultats que j'avais eus sur le plan opératoire, hein, mes transpositions tendineuses n'étaient plus aussi efficaces, et puis aussi bon, une perte musculaire plus rapide. Mon potentiel en moteur neurone et en étant largement entravé par mon atteinte initiale. Enfin, dans ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a expliqué.
Oui, c'est ça. Il paraît qu'il y a un kiné vous
on
a...
On parle de vieillissement, oui, des séquelles de poliomyélite. Moi, je n'ai pas été diagnostiquée syndrome post-polio, ce qui est un degré dans l'évaluation de l'évolution de la maladie.
Vieillissement des séquelles, vous voulez réagir, Maëlle Besseau, au témoignage d'Arlette Bourron?
Non, oui, effectivement, c'est ce que décrivent beaucoup de patients. Donc, il y a sans doute les... alors, pas pour cette personne en particulier, mais en général, les deux mécanismes qui sont décrits, soit effectivement un vieillissement un peu prématuré, tout simplement parce que on part d'une situation qui est déjà dégradée, soit peut-être d'autres mécanismes qu'on n'explique pas. Il avait été évoqué à l'époque une latence du virus. Est-ce que le virus resterait dans l'organisme de façon latente ou à bas bruit et se réactiverait? Est-ce que ce seraient des mécanismes physiopathologiques qui seraient mis en place au moment d'infection aiguë et dont les effets se feraient ressentir des décennies plus tard? En fait, tout ça n'est pas très clair. Et c'est curieux de voir qu'une maladie aussi ancienne et qu'on étudie depuis aussi longtemps a encore des mystères.
C'est ça, des mystères. Justement, vous, Arlette Bourron, je le disais, vous êtes engagée au niveau associatif à Polio France, avec notamment d'autres patients et des médecins. Vous tenez une permanence téléphonique, c'est ça, depuis une dizaine d'années maintenant?
Mais par d'autres personnes de l'association. L'association a une vingtaine d'années.
C'est ça.
Effectivement, elle a été créée par des patients qui se sont trouvés confrontés à cette baisse subite de leur capacité, qui les a interrogés. Et en fait, peu à peu, on a créé un réseau de médecins qui connaissent, qui ont suivi des patients polio et qui connaissent un peu plus cette pathologie dans son évolution. Beaucoup de médecins autour de Garches, mais pas que, il y en a dans d'autres villes également.
Alors, durant ces permanences téléphoniques, quels sont les mots, les ressentis, les interrogations qui reviennent souvent chez les patients polio que vous avez au téléphone?
Alors, c'est que m'arrive-t-il? Je vais finir en fauteuil roulant, mais je me suis aggravée d'un seul coup, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Enfin, c'est souvent effectivement une perte un peu brutale qui interroge. Alors, souvent, par rapport à un état de fatigue ou une maladie qui est survenue, qui a majoré ce phénomène qu'on retrouve de toute manière assez généralement chez des polios qui vieillissent. Et donc, ces interrogations, c'est autour de ça. Il y a effectivement des personnes qui pensent que le vaccin aurait été réactivé, ce qui est un peu exclu par les médecins qui nous entourent dans l'association. Ils parlent plutôt de, par exemple, l'atteinte du membre sain. Moi, par exemple, c'était le côté gauche, où je n'avais pas de faiblesse musculaire, est apparue donc plus tardivement. Et l'hypothèse serait que l'atteinte n'ait pas été égale sur tous les groupes musculaires et qu'il y a eu une sorte d'atteinte minimale ou sourde chez les polios qui ont eu par ailleurs une atteinte aiguë d'un autre membre. Ouais. Je ne sais pas si mon explication est claire, mais en fait, on sait qu'il y a des personnes qui ont eu des atteintes sourdes et que c'est les symptômes tardifs qui fait poser le diagnostic de la polio. Ouais. Pour les polios dont le diagnostic a été très fortement, ou clairement établi dans l'enfance, l'atteinte du membre sain pose cette même hypothèse d'une atteinte à bas bruit de l'ensemble des groupes motoneurones.
Vous voulez répondre, réagir, Maëlle Besseau?
Oui, simplement pour clarifier une information qu'on n'a pas encore donnée, c'est que ces paralysies ne sont pas dues à des atteintes musculaires. Ce n'est pas le muscle qui est malade. Les paralysies, elles sont dues à la destruction des neurones au niveau de la moelle épinière, et c'est la destruction de ces neurones qui commande les muscles qui fait qu'au final, vous ne pouvez plus mobiliser ces muscles.
Je crois savoir aussi, Arlette Bourron, parmi tous les patients, enfin, en tout cas les gens qui appellent Polio France, les témoignages qui vous ont marqué, l'histoire d'une maman qui avait adopté un enfant en Burkina, vous pouvez nous raconter?
Alors oui, ça c'est un appel récent de cette année, où une maman adoptive nous a contactés parce que l'enfant qu'elle avait adopté bébé au Burkina Faso était devenu adulte, 20, c'était quelques années, 22 ans je crois, de mémoire, et développé toute une symptomatologie qui n'était pas comprise, en fait, qui avait amené des orientations un peu curieuses. Elle s'était penchée un peu sur Internet, avait cherché dans différentes pathologies et était tombée sur notre site et s'était un peu interrogée. Et en fait, par notre réseau, des consultations ont pu être établies et effectivement, l'hypothèse la plus plausible au jour d'aujourd'hui qui aide à la prise en charge et à la mise en place d'un projet thérapeutique et qu'il a été effectivement l'objet d'une contamination dans sa toute petite enfance qui n'a pas été vraiment établie ou nommée comme telle, quoi.
Il a été pris en charge depuis, en fait. En tout cas, pour tous ceux qui ont peut-être des questions aussi ou des interrogations, je rappelle le site de Polio France, hein, c'est polio-france.org. Merci beaucoup pour votre témoignage, Arlette Bourron. Merci d'avoir été avec nous.
Au revoir.
À bientôt. Allez, on se retrouve pour parler notamment des difficultés de vaccination dans les pays en guerre et en tension après Djeli Tapa et Dankoroba sur RFI. Djeli Tapa, Dankoroba, un titre à retrouver sur la playlist de RFI. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Priorité Santé à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. On parle prévention et vaccination dans le monde avec notre invité Mel Besseau, spécialiste de la poliomyélite à l'Institut Pasteur. Et nous avons un premier appel au 33 7 61 18 46 41. C'est Dorothée qui nous appelle de Ouagadougou au Burkina Faso. Bonjour Dorothée. Dorothée est avec nous.
Oui, je suis avec vous.
Oui,
bonjour,
merci, ça va très bien. Merci de nous appeler pour nous raconter votre témoignage. Alors vous avez 56 ans et vous avez contracté la polio à l'âge de 14 mois. À l'époque, la vaccination n'était pas répandue non plus.
Non, pas du tout.
Oui, c'est ça. Hein.
Voilà. Mmh. Dans les années 68, limite.
Voilà. Et alors, à ce moment-là, vous, vous avez un papa médecin. Il était médecin à ce moment-là. Comment il s'en est rendu compte et qu'est-ce qu'il a enclenché comme prise en charge?
Apparemment, j'aurais fait une fièvre et ils ont pensé d'abord au palu. Ils m'ont donné les médicaments du palu et le lendemain matin, j'étais complètement paralysée de partout, quoi. Alors, il a commencé immédiatement à me prendre en charge. Ils ont fait des vaccins, ils ont fait des piqûres d'entraide et ça n'allait toujours pas. Il a combiné la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Je crois qu'il s'est même, il a même demandé à être affecté pour se rapprocher de Ouagadougou, où il y avait plus, une plus grande offre médicale. Et là, bon, j'ai eu une enfance assez difficile, toujours chez les médecins, ou à faire des décoctions où on me massait les jambes avec. C'était assez difficile.
Ouais. Mais bon.
Vers 5 ans, je me suis mise debout, j'ai commencé à marcher en appuyant sur ma jambe. J'ai été scolarisée à 6 ans. Et au début des années 80, j'étais parmi les premières à essayer l'orthopédie, les appareillages pour me permettre de marcher. Mais c'était extrêmement douloureux. Et ça m'empêchait de me concentrer à l'école, donc j'ai choisi de marcher avec une canne.
Oui. Et puis alors, bon, Dorothée, je crois savoir que vous avez eu plus récemment, mais vous avez eu un accident de moto. Et là, encore une fois, vous avez dû être opérée de votre jambe handicapée, hein, c'est ça. Et depuis ce moment-là, depuis donc plus de 10 ans, vous avez des douleurs permanentes, c'est ça?
Absolument.
Oui.
Quasi permanente, quoi. J'ai du titanium dans la jambe droite.
Oui.
Et je ne sais pas si c'est le fer qui fait, enfin, le matériel qui fait ça, mais dès qu'il fait très chaud, j'ai très mal à la jambe. Ou très froid aussi. Entre les deux, quoi. C'est toujours un inconfort qui est là, quasi permanent. Le problème, c'est maintenant comment vivre avec cette douleur-là sans être accro aux médicaments.
Eh oui. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut répondre à, à Dorothée Maëlle Besseau?
Alors là, je suis en dehors de mon domaine de compétences. Non, ce témoignage, il est très intéressant parce qu'effectivement, il traduit ces séquelles qui sont lourdes. C'est une maladie, au-delà de la phase aiguë, c'est une maladie qui dure toute la vie, en fait. Et les gens sont très lourdement handicapés, plus les douleurs. Donc c'est ça qui fait le fardeau de la maladie. En fait, ce sont des gens qui, à vie, sont malades.
Et donc, il faut vivre avec quoi ?
Eh bien, il faut vivre avec parce que ce n'est plus un problème de virologie. Encore une fois, le virus se multiplie, il fait les dégâts qu'il fait, puis il disparaît. Et en fait, après, il n'y a plus moyen d'agir sur le virus. Ça ne peut être qu'une prise en charge, mécanique ou chirurgicale pour améliorer les choses.
Et en même temps, Dorothée, je sais que vous êtes très engagée, vous aussi, au niveau associatif, hein, pour changer l'image et le regard sur le handicap, hein.
Absolument.
Ouais.
J'ai eu tellement de difficultés à m'insérer dans la société à cause de cet handicap que ça m'a quelque part révoltée parce que personne ne naît et ne souhaite être handicapé.
Bien sûr.
Alors, le prix qu'on paie pour cela, c'est assez lourd. Alors, j'ai monté une association pour la défense des droits des femmes handicapées qui a quand même donné un autre regard au Burkina Faso sur le handicap.
Comment s'appelle cette association, comme ça au moins
L'Association pour la promotion des femmes handicapées.
Ok, c'est bien noté, ça peut certainement intéresser pas mal d'auditeurs et tristes qui nous écoutent. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, Dorothée. Bon courage à vous et belle journée du côté de Ouaga. On va parler vaccination en Afrique de l'Ouest et du Centre maintenant.
Priorité santé. Sur RFI.
Et nous sommes en ligne avec le docteur Rige. Bonjour.
Bonjour Laurence Garcia.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le coordinateur régional du programme de l'éradication de la polio au bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors justement, quelle est la couverture vaccinale en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest et du Centre?
Actuellement, la couverture vaccinale dans la région, on est à 68%. C'est la situation de 2023.
Oui.
Cette couverture n'a pas trop évolué depuis quelques années. Et oui, donc voilà.
C'est stable en fait.
Oui, c'est plutôt stable, mais c'est insuffisamment stable.
Insuffisamment stable, c'est-à-dire?
Normalement, pour protéger complètement la communauté, la couverture vaccinale devrait atteindre au moins plus de 90% dans un pays et dans la région en soi.
Oui, d'accord. Et là, ce n'est pas le cas encore?
Ce n'est pas encore le cas. Bon, ça, on a progressé, mais après l'avènement de crise de Covid en 2019, on n'a pas encore pris la performance qu'on a eue avant. Mais l'effort est en train d'être fait pour augmenter cette situation.
Alors, quelles sont les régions où il y a un rebond des cas, où vous êtes particulièrement vigilant et vous intervenez du côté de l'UNICEF?
Plus particulièrement dans la région à l'ouest et Centrale-Afrique.
Oui.
Nous avons actuellement 9 pays qui enregistrent encore des enfants paralysés par la polio. Mais c'est surtout au niveau du Nigeria, au Nigeria, qu'on a plus de cas cette année. Disons aussi, il y a 138 enfants qui sont atteints de la paralysie en Afrique en général cette année. Plus de la moitié se trouve au Nigeria.
Et pour des conditions et un contexte d'insécurité lié à ce pays, hein, c'est ça?
Oui, effectivement, surtout dans la partie nord du Nigeria, il y a un contexte spécifique. Il y a l'insécurité, il y a les problèmes d'accessibilité géographique. Il y a également les déplacements internes de la population qui rend difficile d'atteindre les parents, la famille, les enfants. Et également, bon, le système de santé n'est pas suffisamment performant pour atteindre tous les enfants qui devraient être vaccinés.
Forcément, je vais faire réagir notre autre invité, Maëlle Besseau. La question des migrants, des réfugiés, des déplacements des populations, ça joue aussi dans le contrôle et la surveillance de la polio. Hein,
Oui, ça joue aussi, d'autant que, comme je l'ai dit, la plupart des infections sont inapparentes.
Oui.
Et on a aujourd'hui, par exemple, en Algérie, on détecte régulièrement des poliovirus qui viennent d'Afrique subsaharienne, probablement du Nigeria, parce qu'il y a une voie de migration très importante par la transsaharienne, les gens qui remontent vers la Méditerranée. Et donc, très régulièrement, nos collègues de l'Institut Pasteur d'Alger détectent dans les eaux usées, sans cas de polio associés, mais ils détectent dans les eaux usées des poliovirus qui, indubitablement, viennent d'Afrique subsaharienne.
Est-ce qu'on a retrouvé notre invité, le docteur Rige, toujours avec nous, hein, voilà, docteur Rige. Dites-moi, parlons aussi, je crois savoir que l'UNICEF intervient aussi beaucoup au niveau des médias, des influenceurs locaux, des chefs religieux, des autorités traditionnelles, parce qu'il peut y avoir quoi? Quel genre de réticence par rapport à la vaccination aussi culturelle?
Bon, effectivement, l'UNICEF est un partenaire leader en matière de sensibilisation dans le cadre de l'initiative mondiale d'éradication de la polio, qu'on appelle également IMEP. Donc, dans ce cadre, notre rôle, c'est surtout instaurer la confiance entre les parents et la confiance vis-à-vis des vaccins en utilisant les mobilisateurs, mais surtout en travaillant étroitement avec les différents chefs traditionnels et également les chefs religieux au niveau des pays qui sont mieux écoutés par la communauté et à travers eux, on fait passer les messages pour que les bons messages arrivent au niveau de chaque ménage, puisqu'on sait qu'actuellement il y a des informations également concernant la vaccination en général et y compris également les vaccins contre la polio.
Et ça, vous pensez que toutes ces fake news ou ces désinformations, surtout depuis le Covid ou pas? Depuis la crise du Covid?
Je pense que la Covid n'a fait qu'exagérer la situation.
Ouais.
Il y a toujours la situation de anti-vaccin, mais ce qui est bien, c'est qu'on a pu réduire d'une manière drastique la communauté qui refuse de vaccin, mais ça existe toujours. Donc, on continue à travailler, à traquer les réseaux sociaux.
Ouais.
Et nous, on a un système en place, qu'on a mis en place pour répondre dans un temps réel les préoccupations ou bien les soucis des gens qui sont sur les réseaux sociaux.
Justement, concernant les réticences par rapport à la vaccination, on a un auditeur qui voulait nous en parler au 33 7 71 18 46 41. C'est Josepha qui nous appelle de Djamena au Tchad. Bonjour Josepha.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous, Josepha, vous avez 25 ans, vous êtes vaccinée contre la polio, mais votre tante refuse de faire vacciner vos enfants, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Vos enfants qui ont quel âge ?
Oui, justement... Elle a des enfants qui sont environ 3 à 5 ans.
Oui.
Et ce qu'elle a, elle refuse de faire vacciner ses enfants contre la poliomyélite.
Et pour quelle raison ? Pourquoi elle n'a pas envie ?
Oui, sous prétexte que les vaccins pourraient avoir des effets secondaires à long terme. À savoir les troubles de comportement, les troubles de mobilité, et même voir la stérilité. C'est un peu ça les raisons.
Et ça, c'est des informations qu'elle a eues comment, en fait, votre tante ?
Évidemment, elle a eu ces informations, je ne sais pas là où elle a eu.
Oui.
Mais ce sont là les arguments qu'elle a avancés.
Et vous, vous avez envie de lui faire quoi ? Changer d'avis par rapport à ça ?
Évidemment, moi je lui ai parlé, mais elle a refusé. Et non seulement elle, il y a aussi d'autres personnes qui refusent aussi de faire vacciner les enfants.
Il y a beaucoup de gens qui pensent comme votre tante que voilà, les vaccins, ce n'est pas bon et ça peut rendre stérile. Ou ça peut... Il y a beaucoup de gens comme ça qui le pensent à Djamena ?
Oui, évidemment. C'est trop fréquent.
Alors, docteur Rich, qu'est-ce que vous pouvez dire à notre auditeur Josepha par rapport, voilà, il y a encore du boulot quand même en termes d'information ou désinformation.
Effectivement, bon, on est, comme on dit, dans la dernière ligne droite pour l'éradication de la polio et on a besoin plus d'efforts pour y arriver. Malheureusement, comme notre collègue a dit, il y a encore ces cas où les familles refusent. Mais bon, en plus de ce que je viens de dire par rapport à l'implication des autorités religieuses, autorités traditionnelles, un des éléments que nous préconisons également, et j'encourage à nos collègues de le faire à la famille, c'est de faire le témoignage, de témoigner carrément que, bon, voilà, moi, je suis vacciné, moi, mes enfants sont vaccinés, et les voisins sont vaccinés et il n'y a pas de cas. Et de l'autre côté également, s'il y a des cas d'enfants qui sont paralysés, il faut que ces gens-là témoignent également de l'importance de la vaccination, qu'ils ont attrapé ça parce qu'ils n'étaient pas vaccinés.
Oui, oui.
Oui, alors moi aussi, je peux dire mes enfants sont vaccinés. Ce qu'on peut répondre, c'est que ce rejet de la vaccination, il n'est pas spécifique au programme polio. On le retrouve dans tous les programmes de santé publique. Ce qui est amusant, j'allais dire, c'est que les rumeurs changent selon les régions. Dans les pays musulmans, on dit que le vaccin contient du porc. Pour la stérilité, oui, on retrouve ça dans de nombreux programmes de santé publique, que les autorités veulent vacciner les femmes pour les stériliser, pour avoir un contrôle des populations ou pour faire disparaître une minorité. C'est quelque chose qui est très commun. Ce qu'on peut dire à Josepha, c'est qu'en fait, généralement, le discours rationnel est important, évidemment, mais qu'à titre personnel, je pense que sa tante n'est pas dans une recherche de discours rationnel. D'ailleurs, elle ne veut pas lui parler de ça. Et que très souvent, derrière, il y a d'autres causes. C'est le gouvernement me demande de me vacciner, je suis contre le gouvernement, donc je ne me fais pas vacciner. C'est plutôt ce genre de choses-là qu'il faut chercher, plutôt que de vouloir convaincre les gens avec des arguments rationnels, parce que si la tante de Josepha est en recherche de faits rationnels, elle peut les trouver facilement.
Mmh.
Et donc, elle n'est pas dans cette optique-là, probablement. Ce qu'on peut dire, c'est peut-être parler de la maladie. Ces troubles du comportement qui sont hypothétiques, quand bien même ils seraient vrais, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque quand on voit ce que nous a dit Dorothée avant concernant les symptômes de la polio ? Et quel parent est prêt à faire courir ce risque-là à ses enfants ?
À vie.
Voilà, à vie, exactement.
Puis on peut peut-être aussi, Josepha, dites à votre tante de réécouter cette émission en podcast. On verra, hein. Ça peut peut-être lui faire changer d'avis. En tout cas, merci pour votre témoignage. Dans le même genre, on avait un auditeur, peut-être qu'on l'aura peut-être tout à l'heure au téléphone ou pas, mais qui nous a raconté aussi son histoire. C'est Nan, lui, du côté de Cotonou au Bénin. Et voilà, il nous dit, voilà, moi avant j'étais pour la vaccination, mais depuis qu'il a fait vacciner ses filles contre la polio, elles ont présenté des symptômes, vomissements, affaiblissements, fièvre. Elles ont même dû être hospitalisées et les médecins lui ont expliqué qu'elles avaient un poids trop petit par rapport à la dose qu'elles ont reçue. Pourquoi la vaccination peut avoir des effets secondaires aussi impressionnants? C'est la question qu'il voulait nous poser. C'est non, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, Maître Besseau.
C'est difficile de répondre dans ce cas précis. Comme je l'ai dit, le vaccin polio oral, il repose sur des virus qui sont atténués. Et les personnes vaccinées font une véritable infection à poliovirus, ce qui permet d'ailleurs la mise en place d'une réponse immunitaire qui est souvent meilleure que celle qui est induite par le vaccin polio injectable, pour lequel il faut plus de rappels. Donc il n'est pas impossible que des enfants effectivement fassent une réaction à l'infection comme ils l'auraient faite à une infection naturelle. Donc pour ce cas-là, il m'est difficile de répondre. Mais encore une fois, on peut avoir avec un vaccin oral probablement des symptômes de type fièvre ou ce qu'on appelle des symptômes pseudo-grippaux, c'est-à-dire des choses pas très spécifiques, fièvre et peut-être troubles digestifs.
Voilà. Docteur Riz, je voulais peut-être répondre à notre auditeur, qui est du côté de Cotonou. Ah, on a perdu le docteur Riz.
En fait, oui. Bon, je pense que l'explication a été donnée par Maël Besseau. Dans des cas pareils, on fait des investigations très approfondies au niveau de chaque pays. Il y a un système qu'on a mis en place pour identifier exactement quelle était la cause de ces vomissements et d'autres effets secondaires.
Oui.
Souvent, ce n'est pas lié à la vaccination. Mais il y a une coïncidence, donc c'est à travers de cette investigation qu'on peut identifier exactement. Mais effectivement, les parents font le lien directement avec les vaccins. Effectivement, pour certains vaccins injectables ou bien vaccins avec virus atténué vivant, après la vaccination, il se peut qu'il y aura des manifestations très, très mineures comme la fièvre. Mais on le dit aux parents avant même la vaccination et on leur dit que ça va disparaître au bout de 24 heures, 12 heures à 24 heures. Et si ça persiste, il suffit de prendre des médicaments basiques antipyrétiques et ça disparaît.
Ben voilà, si vous nous écoutez, vous avez la réponse avec deux spécialistes. Tout à l'heure, on parlait du Nigeria et pour des raisons d'insécurité, forcément la polio qui recircule à nouveau. Là, très récemment, l'UNICEF est engagée avec l'OMS et le ministère palestinien de la Santé dans la campagne de vaccination dans la bande de Gaza. En début de semaine, plus de 181 000 enfants de moins de 10 ans ont été vaccinés suite à l'apparition d'un cas. Et là, on a appris hier que l'OMS avait annoncé que la campagne était reportée au nord de la bande de Gaza en raison de bombardements intensifs. Maël Besseau, ça vous inquiète?
Oui, c'est inquiétant et toutes ces situations sont inquiétantes, sont à risque. Donc Gaza, c'est des enfants non vaccinés dans des conditions d'hygiène déplorables, sans accès à l'eau potable. Donc tout est là pour qu'il y ait une flambée de polio. On a la région Pakistan-Afghanistan.
Toujours.
Qui est toujours le dernier foyer du poliovirus sauvage de sérotype 1. Et ce n'est pas par hasard. En Afghanistan, les talibans viennent d'annoncer qu'ils refusaient les campagnes de vaccination. Et au Pakistan, le mois dernier, on a encore deux vaccinateurs qui ont été assassinés. Et donc, vous voyez que là, on n'est pas du tout, encore une fois, ce n'est pas un problème ni de virologie ni de santé publique, c'est un problème de sécurité. Le Nigeria, la République démocratique du Congo, l'Est de la République centrafricaine, toutes ces régions-là sont des régions à très haut risque.
Ça vous inquiète aussi, docteur Riz, vous qui représentez aussi l'UNICEF, même si c'est sur le continent africain?
Effectivement, c'est le cas. Hein. Bon, Maël Besseau a indiqué le cas qui s'est passé au Pakistan.
Oui.
Mais c'est le même cas qui s'est passé également au Nigeria. Malheureusement, on a perdu des agents de santé, des vaccinateurs, des agents communautaires. lors des campagnes de vaccination dans la partie où il y a de l'insécurité au niveau de Nigeria. Alors que nous savons que tant qu'il y a un cas dans ce monde,
oui,
aucun enfant n'est protégé. Donc, s'il y a un enfant qui n'est pas atteint pour la vaccination, qui ne reçoit pas la vaccination, le risque est toujours là.
Oui, absolument. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ce n'est pas parce que vous habitez dans une région qui est exempte de poliomyélite depuis des décennies, que vous n'êtes plus à risque. Alors, il y a eu un rappel pour les pays industrialisés en 2022, où quelqu'un à New York a fait une polio, ce qui n'était pas tellement attendu. Et tout d'un coup, les autorités de tous nos pays occidentaux se sont dit « Ah bon, mais alors il faut quand même qu'on fasse quelque chose.
Ouais. »
Alors, c'était quelqu'un dans une communauté religieuse orthodoxe qui refuse toute vaccination. Donc, ce n'est pas surprenant que ça arrive. Mais on s'est rendu compte, à New York, par exemple, il y a une carte très impressionnante où, en moyenne, la couverture vaccinale n'est pas mauvaise. C'est de 85%, je crois. Mais vous avez des quartiers où la couverture vaccinale est à 99% et le quartier à côté, ils sont à moins de 60%, en fait. Et donc, le monde entier est à risque de réintroduction. Il y a eu aussi un rappel en Afrique, en 2021, avec l'introduction d'une souche provenant du Pakistan, dans l'est de l'Afrique, dans la région Mozambique-Malawi, où le virus s'est mis à circuler. Donc une réintroduction, il suffit d'une personne, le virus se met à circuler et donc ce sont tous les efforts des décennies précédentes qui sont remis en question.
Et ça aussi, c'est le message que vous voulez faire passer, docteur Rige. Hein,
oui, effectivement.
Mm-hmm.
Ouais.
Et
je pense que le dernier message que je voudrais faire passer, à part ce qu'on a déjà discuté, c'est surtout aux parents. Bon, c'est d'amener vraiment vos enfants à se faire vacciner, non seulement vos enfants, mais il faut sensibiliser les entourages, les amis, les voisins, et tout ce qui est aux alentours, puisque la vaccination est gratuite.
Oui, ça, faut le rappeler.
Et surtout, je parle de la vaccination en Afrique. Hein.
Oui, bien sûr.
La vaccination est gratuite et accessible pour tout le monde. C'est valable pour tous les enfants. Alors qu'elle évite une paralysie à vie, qui sera, si jamais ça apparaît, et ce sera une charge permanente pour le ménage, et non seulement pour le ménage, mais pour toute la communauté.
Le fameux fardeau de la polio dont vous parliez tout à l'heure aussi, Maëlle Bessot, surtout quand on a entendu tout à l'heure le témoignage de notre auditrice. Comme vous dites, aucun parent n'a envie que ses enfants restent handicapés à vie.
Non, ouais, effectivement, et c'est un point, effectivement, au-delà du cas individuel, c'est un poids pour la collectivité, pour la communauté, parce que les gens qui survivent avec des séquelles ont une espérance de vie tout à fait normale, mais souvent sont très lourdement handicapés et restent un poids pour leur collectivité.
Pour terminer, l'éradiction totale de la polio, vous y croyez? Ça dépend de nous, pas seulement, on a parlé des conflits quand même, mais vous y croyez, docteur Rige?
Moi, personnellement,
oui.
C'est pas que je travaille là-dessus, mais si on est arrivé à éradiquer le type 2 et le type 3, c'est possible. Si on est arrivé à réduire le nombre de cas de 99,9% des cas de polio par rapport à il y a 25 ans passés, donc c'est possible. On a les outils, on a les vaccins, on sait comment faire. Les défis, c'est d'atteindre chaque enfant là où il se trouve pour le faire vacciner. Donc, pour moi, c'est faisable, mais il faut l'effort de tout un chacun, non seulement les agents de santé, mais y compris, merci déjà pour les médias, la RFI, pour le partage de cette information, puisque c'est très important. Merci.
Mot de la fin, peut-être pour vous aussi, Maëlle.
Oui, ce qui est important de comprendre pour le programme polio et pour tous les programmes de santé publique, c'est que en fait, plus on avance et plus c'est dur. Plus c'est dur parce que les premiers cas que vous éliminez, c'est les cas les plus faciles à traiter. Et ce qui vous reste à la fin du programme, et aujourd'hui on est à la fin du programme, il y a quelques centaines de cas depuis des années, il y a quelques centaines de cas dans le monde, ce sont les situations les plus compliquées. Donc c'est Pakistan, Afghanistan, Nigeria, RDC, etc. Et l'effort qu'il va falloir consentir pour éradiquer les 100 derniers cas de polio est incommensurable par rapport à l'effort qu'il a fallu consentir il y a 30 ou 40 ans pour éliminer les 100 premiers cas de polio, j'allais dire. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et souvent, le programme polio est critiqué en disant « mais ça fait des années que vous nous dites qu'on est bientôt à la fin ». Oui, mais il faut comprendre que le dernier effort, le dernier pas est beaucoup plus dur que le premier pas, en fait.
Et on en reparlera forcément. Merci en tout cas à tous les deux. Merci Maël Besseau, spécialiste de la poliomyélite à l'Institut Pasteur. Et merci d'avoir été avec nous, docteur Rige, coordinateur. Merci à vous. Régional du programme de l'éradication de la polio au bureau de l'UNICEF. Allez, on se quitte avec un collectif d'artistes d'Afrobeat produit par l'UNICEF justement en cette journée mondiale contre la polio avec un titre qui sort aujourd'hui même à Lagos au Nigeria et ça s'appelle No More Zero Dose.
Yeah, got a new system.
If only you can pay attention, listen to my story. Many people we no need to don't suffer from polio. We all need to propagate the news. We no fit to underrate them too. If they get immunization, therefore they jolly like me and you.
Priorité santé, c'est terminé. Merci à toute l'équipe, Didier Bleu, Ophélie Lassène, Louise Kaleda-Kitalimpo, Tom Malky, Thierry Le Saint. Demain, à la même heure, comme tous les vendredis, c'est questions de femmes avec toutes vos questions concernant la ménopause, les traitements, les symptômes, la façon dont vous vivez au quotidien ce grand chamboulement hormonal, c'est moins qu'on puisse dire, avec vos questions, bien sûr, au 33 7 61 18 46 41. À suivre dans 10 minutes sur RFI, 8 milliards de voisins et de voisines avec Emmanuel Bastide. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque été.